France Culture.
À voix nue, Nima Cartier, cette semaine je m'entretiens avec
Catherine Destivel, alpiniste et aujourd'hui éditrice.
Premier épisode de cette série, la petite citadine qui rêvait des montagnes. Catherine Destivel, vous êtes une des plus grandes alpinistes françaises. Vous faites partie de cette génération de sportifs assez iconiques des années 80 et 90. Vos ascensions ont été très médiatisées et ont contribué à vous faire connaître du grand public. Vous êtes aussi connue des grimpeurs du dimanche, dont je fais partie, qui ont grandi avec vos photos et vos films, où on vous voit avec votre juste au corps rose pendu à un bras en haut d'une falaise. Vous êtes triple championne du monde d'escalade. Vous êtes la première alpiniste à avoir gravi les trois grandes faces nord des Alpes, en hiver et en solitaire, sans reconnaissance. On verra ce que ça veut dire. Vous avez reçu pour votre carrière le Piolet d'or en 2020, qui est un peu la palme d'or des alpinistes. Et vous êtes la seule femme de l'histoire à l'avoir reçu. Je suis très contente de passer cette semaine avec vous, parce qu'au-delà de vos exploits sportifs, vous êtes aussi une terrienne. Vous parlez sans romantisme de la montagne et aussi de ce que c'est que l'aventure, la peur, le risque et le vide. Et ça, ça parle à tout le monde, qu'on aime la montagne ou non, qu'on sache grimper ou pas du tout. Bonjour Catherine Destivel.
Bonjour Nima.
Dans ce premier épisode, on va parler de votre enfance. On pourrait penser que les alpinistes naissent au pied des montagnes et que c'est parce qu'ils voient la montagne tous les jours que ça leur donne envie d'y aller. Mais vous, Catherine Estivel, vous êtes née à Oran, en Algérie, en 1960. Et puis, vous avez grandi à Savigny-sur-Orge, en banlieue parisienne. Donc, en fait, vous êtes plutôt une citadine à la base. Est-ce que vous pourriez parler un peu du paysage de votre enfance? À quoi ça ressemblait, Savigny?
Alors, Savigny-sur-Orge, c'était coincé entre l'autoroute et la voie ferrée. On habitait dans une cité où mes parents avaient un idéal et ils espéraient que cette cité pourrait offrir aux habitants des bibliothèques ou des ateliers où on pouvait partager en commun plein de choses, des ateliers de peinture, étendre le linge au même endroit, enfin des choses un peu où on partage des valeurs et puis des quotidiens. Et bon, ça s'est vite dégradé, mais moi j'en garde un super souvenir. Car on pouvait, de la fenêtre, voir les copains ou les copines qui étaient en bas. Et en fonction, descendre, jouer. Enfin, surtout pas se retrouver tout seul, en fait, c'était plutôt ça. Et comme il n'y avait pas de voiture devant l'immeuble, on pouvait faire du roller, de la patinette, du vélo, comme on voulait. Donc j'ai eu une enfance plutôt très heureuse au milieu de plein de gens qui habitaient dans ces immeubles. Il y avait du bruit, hein, on ne peut pas dire. Il y avait l'autoroute d'un côté et les voies ferrées de l'autre. Mais ça, nous, enfants, ça ne nous dérangeait absolument pas. Et puis ensuite, mon père travaillait à Auknes, qui était à Bretigny, à côté. C'est pour cette raison qu'on a atterri à Savigny-sur-Orge. Et du coup, on n'était pas très loin de la forêt de Fontainebleau. Et c'est pour cette raison que le week-end, j'avais 4 ans, 5 ans, mes parents nous emmenaient en forêt de Fontainebleau pour s'aérer, pique-niquer, jouer comme n'importe quel gamin pourrait faire quand il voit un petit bout de rocher, il a envie de grimper dessus. Donc on a grimpé très jeune pour jouer. Voilà, ça a démarré comme ça.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Donc votre père, il était au CNES et...
Mon père était ingénieur au CNES, car il avait participé au lancement du premier satellite français dans l'espace. Et c'était des discussions assez techniques à la maison. Et puis ma mère avait fait les beaux-arts. Donc elle avait créé un atelier de peinture à la maison. Et donc il y avait une pièce destinée à ça et tous les jeunes de l'immeuble, enfin de la cité, venaient peindre alors je sais plus, c'était le mercredi ou jeudi à l'époque, c'était un peu la porte ouverte à plein de monde. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille assez, je suis l'aînée de 6, hein. Du coup beaucoup beaucoup d'enfants en permanence à la maison qui étaient là pour jouer, quoi. C'était super. Donc non, moi j'ai des bons, très très bons souvenirs. Jouer aux billes, par exemple. C'est vrai que c'était nouveau quand les filles jouaient aux billes. C'était pas c'était pas commun. Mais dans la cité, tout le monde faisait ça. On jouait tous aux billes, filles, garçons. Et comme les garçons jouaient à la corde à sauter aussi, et on jouait avec le ballon. Enfin bon, voilà.
Et vous dites donc vous êtes l'aîné de 6 enfants, dont 5 filles.
Oui.
Et vous dites que votre père vous a élevé comme des garçons. Ça veut dire quoi ça?
Mon père nous a élevés comme si, comme des garçons. Enfin, ça veut dire que on jouait au ballon, on jouait à plein de choses, comme je dis tout à l'heure. Et puis, notamment, pour grimper, il nous a bien débridés. Enfin, on va dire, quand on allait à Paris, on y allait souvent parce que ma grand-mère, mes deux grand-mères habitaient Paris. On allait les voir le dimanche et puis du coup, on allait au musée, parce que ma mère passionnée d'art, on allait dans les musées voir de la peinture. Mais le jeu, c'était de jouer à chat-perché dans les rues et donc de monter, pourquoi pas, sur les parapets de ponts à Paris, de jouer, monter sur les réverbères et tout ce qui est grimpable. Et on jouait à chat-perché. Donc, on va partir de 4 ans, 5 ans, on jouait à ça jusqu'à l'âge de 12-13 ans. On a toujours grimpé.
Et j'ai lu quelque part, vous disiez, quand j'étais petite, j'étais vigousse. J'ai jamais entendu cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vigoureuse. Quand j'étais petite, j'étais vigoureuse. C'est-à-dire que mes sœurs aussi, on avait beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, même quand les gens venaient à la maison, c'était assez libre à la maison. Mes parents avaient pas forcément très riches, mais on avait des fauteuils de salon. C'était en osier. Et avec des coussins, et du coup, on les retournait, on faisait des voitures, mais quand les gens arrivaient, ils en revenaient pas. On avait mis l'appartement sans dessus-dessous, et du coup, ils se disaient, finalement, avoir des garçons, c'est peut-être mieux. mais je sais pas si c'est une question de genre, mais en tout cas, on était assez turbulente. Et même, parfois, on mettait de la musique, je me souviens, on n'avait pas de télé, nous, hein. Donc pas de télé, jusqu'à l'âge de... Je pense que j'ai 17 ans, j'ai pas eu de télé. Donc la télé, c'est chez les voisins. Mais on avait, un électrophone, on mettait des disques. Et on dansait sur ces musiques. Et donc on était... Ouais, peut-être que le fait de pas avoir de télé, ça nous a aussi forcé à bouger, à faire des choses par nous-mêmes ou à lire même. Et voilà.
Et vous dites que votre père, un peu pour vous canaliser, donc il vous emmène à Fontainebleau, là où il y a des rochers, et là, donc avec vos sœurs, vous grimpez sur les rochers. C'est quoi vos premiers souvenirs de grimpe? Parce que c'est la première fois que vous grimpez, finalement.
Les premiers souvenirs de grimpe, c'est plutôt un peu plus tard, quand j'y suis allée avec un groupe de Savigny. Alors à l'époque, ça s'appelait l'Aumônerie. C'était pas les scouts, mais c'était des sorties comme ça organisées par le curé de la paroisse. On n'était pas forcément très cathos non plus, mais bon, on s'est retrouvés là. En tout cas, c'était prêt.
Vous avez eu une enfance, enfin une éducation religieuse?
On allait au caté, à la messe. Enfin, le caté, oui, parce que ça faisait partie d'une éducation. La messe, moi, j'ai pas souvenir d'avoir été beaucoup à la messe. Mais ma mère y allait un petit peu, ouais. Mon père, il était pas franchement là-dedans. Bah aussi, il disait que c'était un bel endroit pour réfléchir. Mais c'était pas forcément sa conviction. Mais il respectait, voilà. Parce qu'après, très vite, moi, à 11, 12 ans, j'étais au club alpin français. Des cadets. À l'époque, c'était les mineurs. Et du coup, ça m'a permis d'aller en forêt de Fontainebleau très jeune. Et l'aumônerie, j'ai laissé tomber. Mais les premiers souvenirs de l'aumônerie, c'est peut-être quand j'avais 10 ans, 11 ans, les premiers rochers, quoi, où on allait à Fontainebleau pour grimper, pour de vrai. Faire des flèches, quoi. Enfin, il y avait des petites flèches. Et ça, je m'en souviens, ouais. En fait, on a grimpé très, très jeune, quand je disais à Paris, mais aussi en vacances, on a une maison de famille en bord de mer, avec un mur qui est un peu incliné, et sur lequel on passait 2 mois de l'été dessus. 2 mois. C'est-à-dire que c'était au bord de mer, donc c'est un mur qui empêche la mer de progresser, mais c'était le fronton de mer qui était un peu incliné, on appelle ça le Perret, et on passait des journées à faire... à jouer, on jouait à je sais pas quoi, il y avait la maison dans un coin, la maison de l'autre dans un autre, et puis on faisait des... Mais toujours comme des chamois sur un plan incliné, pieds nus. Donc voilà, ça c'était... Et je pense que c'est là qu'on a tous, toute la famille, on a le pied agile, on a tous eu ce goût, cette aptitude à être à l'aise sur une paroi verticale.
Et votre mère aussi, elle grimpait avec vous?
Non, ma mère non. Non, elle non. Non, elle n'était pas... Par contre, elle regardait ce qu'on faisait, mais elle était... je l'ai pas vu beaucoup grimper.
C'était surtout votre père?
Mon père un peu, ouais. Et puis, il nous encourageait, donc voilà. Mais du coup, on perchait en permanence, mais c'était mal vu des autres familles, parce qu'on était dangereuses. Bah forcément, entraîner les petits copains et les petites copines sur les murs... c'était pas très bien vu. Il y a plein de mamans, de parents qui étaient inquiets de qui nous fréquentent parce qu'on n'avait pas de limite, quoi. Ils disent ouais, ils vont se casser la figure quand même. Faut pas faire ça sans surveillance. Enfin voilà. Et nous, c'est vrai qu'on le faisait sans surveillance. Et les parents nous ont jamais rien dit.
Oui, vos parents ont toujours eu assez confiance en vous. En
fait. Ben complètement. Mais puis de toute façon, un enfant en principe, ça tombe pas, quoi. C'est un instinct, il y a un instinct animal. Oui, il y a un instinct animal, mais à partir du moment où on fait ça très jeune, voilà, l'enfant s'est bougé sur une surface qui est peu commune pour les autres.
Et là, on parle beaucoup de rochers, mais après, enfin, vous allez beaucoup plus tard, vous allez devenir alpiniste. Est-ce que vous avez un souvenir de vos premières images de montagne, que ce soit une montagne réelle ou une montagne fictive dans les livres?
Ouais. Ou... Alors, ma première, j'ai les deux. Moi, j'ai à la fois les livres et à la fois les vacances à la montagne où mes parents louaient un petit chalet en Suisse. Là, j'ai des souvenirs de montagne réels. C'est-à-dire que très jeune, on avait 6 ans. Moi, je devais avoir 6 ans. Les autres, un peu plus jeunes, forcément, on montait dans des refuges. Le but étant d'aller au refuge et de passer une nuit, c'était... Voilà, les souvenirs, j'en ai très jeune. Mmh. Et du souvenir de ma mère qui avait pas mis de lunettes. Je me souviens, elle avait attrapé une ophtalmie. Ça m'avait marqué. Sur un glacier, en été, il faut mettre des lunettes, quoi. Et parce qu'il y avait de la neige autour du refuge. Et on a appris, du coup, à marcher très jeune, marcher sur les chemins. Pour aller au refuge, il faut marcher un petit peu. Et peut-être aussi, ça nous a forgé un petit peu la physique pour la suite.
Oui, mais est-ce que vous rêviez de montagne? Est-ce qu'il y a...
Ben, j'en rêvais, j'y étais. Donc, ça, c'est parfait. Par contre, quand j'ai lu Heidi ou que j'ai vu Belle et Sébastien à la télé chez l'institutrice qui avait la télé, là, j'en rêvais. J'en rêvais vraiment, mais d'y aller, mais comme eux. C'est-à-dire en étant seul, sans parents et sans juste pour être dans les grands espaces. Et là, je trouvais ça incroyable, topissime, quoi, d'être là, libre, d'être libre aussi. C'est la liberté peut-être qui m'inspirait ça. C'est-à-dire que ces enfants-là étaient libres d'évoluer comme ils le voulaient dans la nature. Mmh. Et ça, c'était magique. Non pas que j'avais des parents qui étaient vraiment carrés, hein, mais pas du tout même. Mais j'aspirais encore plus de liberté, quoi. Et d'être responsable de soi-même. C'est-à-dire que la montagne, on est responsable de soi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'environnement. Il faut faire attention pour sa sécurité, hein. Et pour aussi maintenant, respecter la nature. Mais on est complètement livré. Il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on veut en montagne. Et ça me plaisait beaucoup.
Et puis le vient votre adolescence, et donc ça c'est les années 70, et on imagine un peu les ados, je sais pas, des villes, la musique qu'ils écoutent, les sorties et tout, mais vous finalement vous êtes un peu à contre-courant, vous écoutez de la musique classique, vous rêvez de montagne.
C'est vrai que j'étais complètement à contre-courant, vu que tous les week-ends, plutôt que d'aller voir mes amis, je partais en grimper à Fontainebleau ou en montagne le week-end. Et du coup, j'ai pas eu l'impression de grandir avec des gens de mon âge. Parce que je les voyais à l'école. Mais bon, à l'école, je voulais avoir des résultats corrects pour que les parents m'ennuient pas, m'interdisent pas d'aller le week-end. Et du coup, j'ai eu l'impression de grandir, d'évoluer un peu en marge des gens de mon âge. J'ai pas connu les booms et les fêtes qu'ils faisaient et puis même les sorties d'école au bistrot avant de rentrer chez soi. Enfin, et quelque part, puis je me sentais un peu décalée aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils écoutaient de la musique différente de la mienne. J'ai eu de la chance aussi de faire de la musique. Mes parents nous ont fait faire de la musique et je faisais la flûte traversière et j'étais dans un orchestre. J'étais assez occupée en fait entre l'orchestre et l'escalade. Voilà, du coup, j'ai pas connu les grands concerts de pop et tout ça, le rock, et genre les Beatles. Mes cousines, elles écoutaient les Beatles, pas nous.
Et vous, vous écoutiez quoi?
Bah, à la maison, si c'était des chansons, c'était très classique, Brassens, des gens comme ça. Et puis la musique classique, bon, j'aimais bien aussi, hein, je vais pas dire. Et puis du jazz aussi, pas mal de jazz. Et puis, je me suis rattrapée après, mais... Puis il faut avoir du temps aussi, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'étais pas dans l'air du temps avec les copains, les copines de mon âge.
Voilà. Ben oui, et un jour, donc à 14 ans, vous prend l'idée d'aller faire le tour de l'Oisans dans les Hautes-Alpes. Et ça paraît dingue aujourd'hui, mais votre père vous dit OK. Donc ouais. Le tour de l'Oisans, c'est une randonnée de 10 jours. Toute seule, vous avez donc 14 ans et votre père vous dépose au pied de la montagne et dit qu'il reviendra dans 10 jours.
Ouais.
Comment ouais, ça se fait qu'il vous faisait si confiance?
Je me dis, waouh, il était gonflé, quoi. Mais j'étais l'aînée de 6. J'étais assez responsable déjà. Enfin, je savais gérer. Enfin, si mes parents n'étaient pas là, je pouvais faire à manger. Et voilà, j'étais capable. Mais ouais, je pense qu'ils avaient confiance. C'est vrai, quand je leur ai demandé est-ce que je peux faire ça, alors c'est plutôt mon père qui a dit OK. Ma mère, bon, elle a dit oui parce que mon père disait oui, mais.
Elle était peut-être pas très rassurée.
Peut-être, mais bon, ils se sont dit qu'en montagne, c'était bien fréquenté, que j'allais pas avoir de problème. Et donc, je suis partie, je m'en souviens encore, parce qu'ils m'ont pas aidée à faire mon sac. C'est-à-dire que j'ai fait mon sac toute seule pour 10 jours de randonnée. Donc, j'avais pris une tente, mais à l'époque, c'était à peser une tonne, ces tentes. J'avais un sac de couchage, j'avais des rouleaux de PQ, j'avais des boîtes de conserve. Je me souviens, le premier jour, quand je me mettais assise par terre, je ne pouvais pas me relever avec le sac sur le dos, quoi. C'était impossible, trop lourd. Oh, je me suis dit, comment je vais gérer ça? Et bon, je me souviens plus ce que j'ai fait. J'ai dû trouver une solution, mais c'était énorme, énorme. Et puis progressivement, mon sac s'est délesté et ça allait mieux. Puis je me suis rendu compte aussi qu'un tour d'Oisans, je faisais le GR, tout bêtement, hein. Mais c'était toujours les mêmes. On faisait les mêmes étapes. Donc en fait, les gens... Je les ai rencontrés, j'ai pu parler avec eux.
Les autres randonneurs.
Mais bien sûr. Donc, j'étais pas toute seule. En fait, j'étais pas franchement toute seule. C'est juste, j'ai rencontré des gens sympas. Voilà. Après, dans la journée, je pouvais marcher toute seule, mais le soir, on se retrouvait tous à peu près au même endroit. Voilà. Puis mon père m'avait dit, bah, quand tu vois une cabine téléphonique, ce serait sympa que t'appelles. Bon, voilà. Donc, j'ai appelé peut-être une fois ou deux, je sais pas.
Pour les rassurer.
Oui. Bah oui. Faut jouer le jeu.
Quand même.
Voilà, genre, et puis non, ça s'est bien passé. Mais par contre, je pense que c'est c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, je pense, pour la suite. C'est-à-dire que de savoir qu'on est capable de faire ça à 14 ans, on se dit, dans ma tête, ça m'a fait mûrir, probablement. Et prendre conscience que, voilà, si je m'organise bien, si je prépare bien mes projets, je peux y arriver, quoi. Et je me suis jamais, il n'y a jamais eu de limite du coup après. Je ne me suis pas braquée parce que je me suis dit non, ce n'est pas raisonnable. Je ne me suis jamais dit parce que je suis une fille, je ne pourrais jamais faire ça. Ou... Jamais. C'est juste, je suis un individu, je suis capable de le faire. C'est tout. Cette autorisation m'a fait grandir. Ouais.
Et à 16 ans, vous faites croire à vos parents que vous partez à Fontainebleau? Dans les rochers, et puis en fait, vous allez Gare de Lyon avec votre sac, vous sautez dans le train et vous partez dans le Verdon pour faire de l'escalade. Donc là, pareil, toute seule. Et vous rencontrez des grimpeurs qui sont essentiellement des hommes, plus vieux. Vous rencontrez les gens au pied des voies, en fait.
C'est pas tout à fait exact. Moi, je partais avec des gens de Paris qui étaient adultes, et ils sortaient tous des grandes écoles. Mais je disais pas forcément à mes parents que j'allais avec eux.
Ah d'accord.
Donc je partais pas toute seule, je partais avec des gens. Je suis jamais partie toute seule en me disant je vais rencontrer des gens. Non, jamais. Non, je partais, c'était organisé dès le départ avec certaines personnes. Voilà, puis un jour, bon, mes parents l'ont découvert, et puis après ils ont découvert les gens avec qui je faisais ça. Bon, mon père étant ingénieur, il a vu ces jeunes qui sortaient des grandes écoles, il s'est dit bon. En fait, bon, c'est un peu stupide parce que c'est pas parce qu'ils sortent des grandes écoles qu'ils ont la tête bien faite, forcément. Mais bon, en tout cas, il avait pas peur pour sa fille. Il s'est dit bon, elle va être. Voilà, elle est dans de bonnes mains.
Oui, et donc qui étaient ces gens? Parce qu'en fait, c'est les années 70. C'est vrai que quand on connaît pas, on imagine un peu les babas cool avec les cheveux longs.
Ah non,
et qui est couturé.
Alors moi, j'ai pas du tout eu ce genre de rencontre. C'était des jeunes qui sortaient soit de polytechnique, soit de physique chimie, soit des mines, l'école des mines. Donc c'était tous des jeunes, voilà, pas des hippies, qui savaient exactement où ils allaient et qui faisaient de l'alpinisme et que j'avais rencontré à Fontainebleau. Parce que moi, c'est vrai qu'à Fontainebleau, j'y suis allée toute seule au départ parce que j'ai lâché les cadets. Je trouvais que voilà, ça avançait pas beaucoup. Et je suis allée rejoindre dans c'est un site de rocher qui s'appelle le Cuvier à Fontainebleau, où à l'époque on disait que c'était le site le plus difficile. Et il y avait toutes les stars du coin qui étaient là. Et donc j'allais là et c'est là que j'ai rencontré ces gens. Ça m'a fait progresser. C'était les meilleurs de Fontainebleau à l'époque.
Il faut imaginer que l'escalade à ce moment-là, c'est un sport, mais c'est aussi un état d'esprit parce que c'est très peu médiatisé.
Pas du tout médiatisé.
Ouais.
Pas du tout. Il y a aucun journal spécialisé là-dessus. Personne n'en parle. Il y a la revue du CAF, du Club Alpin Français,
oui,
et qui est destinée aux adhérents. Donc il y avait cette petite revue qui me faisait rêver. Moi, je l'avais c'était ma lecture de chevet, quoi. Je voyais les sorties, je voyais ce que faisaient les forces alpinistes qui avaient durant l'été. Je voyais ce qu'ils avaient fait. Enfin, ça m'inspirait beaucoup. Mais c'était le seul petit journal qui existait, mais qui était entre nous.
Et est-ce que c'est parmi ces grimpeurs que vous rencontrez donc Pierre Richard?
Oui.
Il faut dire que c'est pas le Pierre Richard du grand
non.
blond avec une chaussure noire.
C'était aussi un grand blond, mais pas avec une chaussure noire. C'est pas le même.
Et lui, est-ce que vous pouvez parler un peu de qui c'était et puis ce qu'il vous a appris, en fait? Lui, il vous a embarqué.
Pierre, oui, c'était, lui, il sortait de physique chimie. Il travaillait à Jussieu comme chercheur. Je l'ai rencontré au Cuvier. Il était super patient parce que moi, j'étais pas super forte, mais c'est grâce à lui que j'ai progressé, en tout cas. Il me traitait comme un garçon, comme un égal. Et à chaque fois, il me dit, tiens, c'est ton tour, vas-y, fais ce rocher, etc. Donc, après, moult essais, puis les rochers à Fontainebleau, c'est pas grand, mais il y a plusieurs techniques pour gravir un passage. Du coup, en fonction de ma taille, parce que j'étais aussi pas très grande. Puis j'avais des problèmes aussi, c'est que j'avais pas de chaussons à ma taille. À l'époque, il y avait pas de chaussons pour les filles. Il y avait des chaussons, ils démarraient à 39, et bon, moi je faisais 37, ça allait pas, quoi.
Et donc comment vous faisiez?
Je mettais des chaussettes et puis des semelles. Mais c'était pas très précis. On m'appelait patin roulette. Mais donc, j'étais un peu handicapé, quoi. Enfin, par rapport à ce problème, c'est quand même des grands chaussons. Et lui, après, je suis allée aussi en falaise, à Surgy, au Sossois, c'est des petites falaises dans l'Yonne et dans la Nièvre. Et là, pareil, un coup c'était moi en tête, un coup lui, un coup moi. Et puis, comme j'étais un peu, pas timide, mais il me disait, c'est ton tour, j'osais rien dire. J'y allais, puis tellement contente d'être là que j'y allais. Et donc, j'ai grimpé en tête très jeune.
Il faut peut-être expliquer ce que c'est grimper en tête.
Alors, grimper en tête, ça veut dire faire la première de cordée. Et donc, c'est quand on grimpe, on est à une corde qui est attachée à la taille et on mousquetonne au fur et à mesure les pitons qu'on trouve sur place dans la roche. Donc, si on tombe, on est retenu. Alors, à l'époque, il faut dire, nous, on n'avait pas de baudrier au départ. Hein. Ça n'existait pas encore vraiment. On avait juste des sangles qui entouraient la taille. Et les cordes, on disait qu'au bout de 3 chutes, elles cassaient.
Oui.
Donc, il fallait pas tomber, quoi, en gros. Et à l'époque, on grimpait pas en libre comme aujourd'hui. Le libre, ça veut dire grimper en étant assuré, mais sans toucher au piton en place. C'est tricher de tirer sur un piton pour s'aider. Voilà, ça, c'est l'escalade, ce qu'on appelle aujourd'hui l'escalade libre. Nous, à l'époque, on faisait de l'escalade on appelait ça de l'escalade, c'était pas libre du tout, et on tirait sur les clous, tout ce qu'on trouvait, on tirait dessus. Et donc, et jusqu'aux années 80, tout le monde grimpait avec cette technique. C'est-à-dire qu'on voyait un piton, on le mousquetonnait, on se tirait dessus. C'était comme ça. Mais par contre, entre les pitons, il pouvait y avoir pas mal de distance. Et par contre, quand on tombait, quand on tombe, même encore aujourd'hui, si on tombe, si on est à un mètre au-dessus du piton, on tombe deux mètres, oui. Forcément. Et si on fait deux mètres au-dessus du piton, ça fait quatre mètres et ça commence à faire un peu, beaucoup.
Donc, est-ce que vous diriez que là, dans ces années-là, c'est vraiment, vous êtes super jeune en fait, vous avez 17 ans.
Est-ce que ouais, 15 ans, 16 ans.
15, ouais. Ouais. Est-ce que c'est aussi un moment où finalement vous avez appris à grimper sans tomber ? C'est-à-dire qu'il ne fallait pas tomber ?
Oui, complètement, parce qu'il ne fallait pas tomber. Donc il fallait savoir où on allait, dans quoi on s'engageait, être sûr de son niveau technique. Du coup, c'est une habilité qu'on acquérait à Fontainebleau surtout. C'est en 1919 que les premiers alpinistes se sont entraînés à Fontainebleau, les Parisiens. Ils étaient super forts. Ils étaient super forts parce qu'ils pouvaient aller grimper sur les petits rochers toute l'année. Et à une fois, très en forme, ils partaient à Chamonix et ils ouvraient des parois de rochers. Ce que les chamoniens ne pouvaient pas faire parce qu'ils s'entraînaient pas toute l'année, il y avait de la neige. Et eux, ils étaient meilleurs par contre en glace et en neige. Donc les Parisiens, moi j'étais donc parisienne, on s'entraînait toute l'année et arrivés du coup sur le terrain dans les grandes parois, on était assez bons. Et on avait beaucoup de technique et beaucoup de force pour pouvoir se permettre d'envisager des grandes parois sans prendre trop de risques.
Et on va parler dans les épisodes suivants des débuts de la compétition et vraiment du moment où ça va devenir votre métier. Mais ce qui est très étonnant chez vous, c'est qu'en fait, les premières très grandes ascensions que vous avez faites dans les Alpes, vous les avez faites super jeunes. Là, vous disiez 15, 16, 17 ans. Et on imagine que vers 17 ans, on commence à un peu à se poser la question de ce qu'on va faire de sa vie aussi, de, je sais pas, de son métier. Est-ce que vos parents, ils vous posent la question et vous, vous répondez quoi ? Je veux être alpiniste ?
Alors, à l'époque, le métier d'alpiniste n'existait pas du tout. C'était guide, mais à l'époque, il n'y avait pas de femme guide non plus. J'ai jamais envisagé d'être professionnelle de l'escalade ou de l'alpinisme, jamais. Mes amis étaient tous donc plus âgés que moi et ils avaient déjà un métier. Ils étaient tous ingénieurs, chercheurs, et ils grimpaient tous les week-ends. Et puis, il y a des métiers comme les chercheurs et ils grimpaient dans la semaine aussi. Ils organisent leur temps comme ils avaient envie. Il y avait aussi des enseignants à l'école normale, etc. Bon, moi, j'avais 10 ans de moins et je me voyais pas faire des études à rallonge parce que sinon, je pouvais plus aller grimper avec eux. Et j'étais un petit peu embarrassée et du coup j'ai choisi un métier rapide, et qui allait me servir pour l'escalade.
On va en parler là dans le deuxième épisode. On se retrouve demain où on parlera donc compétition, sponsor, film d'escalade, bref, le moment où cette passion deviendra votre métier. C'était À Voix Nue, réalisation Anne de Pelchin, prise de son Alexandra Bergel, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Nima Cartier disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.